Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. C'est le grand rendez-vous de l'élevage français, sa principale vitrine après le Salon de l'Agriculture. Le SPAS, Salon International des Productions Animales, vient de s'ouvrir à Rennes. L'occasion d'interroger l'avenir d'une filière de plus en plus critiquée pour ses méthodes et d'y répondre. Trois tables rondes sur la question du bien-être animal ont ainsi été programmées cette année. Un contre-feu rendu nécessaire par l'impressionnante progression du véganisme. Le véganisme, nous dit le Larousse, c'est le refus de consommer tout produit issu des animaux ou de leur exploitation. Et en jugé par le contenu des linéaires des magasins d'alimentation, le projet est jugé convaincant. La diffusion de vidéos tournées dans des abattoirs n'y est pas pour rien. Alors mouvement de fond ou feu de paille, l'avenir nous dira ce qu'il réserve au véganisme. Mais faisons l'hypothèse que celui-ci sorte victorieux, autrement dit que les humains que nous sommes cessent définitivement de manger de la viande. Nos amis les animaux s'en porteront-ils forcément mieux? Ne faudra-t-il pas dire adieu aux veaux, vaches, cochons et autres couvées? Alors les véganes menacent-ils le monde animal? Eh bien, c'est à cette étrange question que nous allons tenter de répondre ce soir en compagnie de deux invités, à commencer par vous, Renan Larue, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de littérature à l'Université de Californie à Santa Barbara. Vous y enseignez par ailleurs les Vegan Studies. Vous avez publié au PUF en 2015 « Le végétarisme et ses ennemis ». Et aujourd'hui sort, toujours au PUF dans la collection « Que sais-je », Le véganisme, ouvrage que vous avez coécrit avec la philosophe Valérie Giroux. Et pour discuter donc avec vous ce soir, une deuxième invitée qui, elle, se trouve à Montpellier, en duplex des studios de France Bleu Hérault. Il s'agit de Jocelyne Porcher. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, vous êtes directrice de recherche à l'INRA, vous travaillez en particulier sur la relation entre les éleveurs et leurs bêtes, relation de coopération. Vous avez eu par le passé une expérience d'éleveuse et vous avez publié aux éditions La Découverte, Vivre avec les animaux, une utopie pour le 21e siècle. Alors j'aimerais commencer avec vous avant peut-être d'imaginer ce que serait un futur où le véganisme aurait gagné, si ce n'est la totalité de la planète, en tout cas, le véganisme serait devenu la norme. Est-ce qu'on peut se dire, en tout cas, aujourd'hui, Renan Larue, que, par exemple, tiens, que le fait que le terme véganisme soit désormais inscrit dans le dictionnaire, c'est un signe, en tout cas, que c'est un mouvement qui prend de l'importance et qui est un phénomène de fond?
Ah oui, c'est une reconnaissance en quelque sorte institutionnelle de ce mouvement-là. Il faut bien avoir conscience que le véganisme est très à la mode aujourd'hui. Il y a un engouement dans les médias, dans la presse, etc. pour cette question-là. Mais depuis l'Antiquité, depuis plus de 25 siècles, des philosophes, des penseurs se sont penchés sur la question très sérieusement. Le véganisme est une tendance minoritaire en Occident, mais une tendance persistante. En ce moment, elle est en train vraiment d'être mise sur le devant de la scène pour différentes raisons psychologiques, morales.
Vous dites que c'est très à la mode aujourd'hui, oui. Mais vous savez ce qu'il advient des modes, c'est-à-dire elles finissent par être dépassées. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui peut être le cas, le futur du véganisme?
Alors, c'est une mode parce qu'on en parle beaucoup, mais il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux derrière cette question de consommation, par exemple, végane. Le véganisme pose des questions d'ordre moral, juridique, philosophique, extrêmement profondes. C'est pas une mode comme les pâtes d'eff ou pas les pâtes d'eff. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Donc, ce qui est intéressant, c'est peut-être un tout petit peu la mode, donc la consommation qui est à la surface, mais derrière ça, il y a vraiment des enjeux extrêmement importants.
Jocelyne Porcher, est-ce que vous y voyez un mouvement de fond ou au contraire quelque chose de relativement éphémère?
Non, j'y vois un mouvement de fond, mais qui s'enracine dans l'industrialisation de l'élevage et la prise en main par les scientifiques et les industriels de notre relation de travail avec les animaux en élevage. Et le fait que aujourd'hui, alors pourquoi maintenant, pourquoi cette mode aujourd'hui? Justement, c'est parce qu'aujourd'hui, contrairement à il y a une dizaine d'années, il y a 20 ans, parce que la critique des systèmes industriels sur laquelle se fonde le véganisme et ce mouvement n'est pas nouvelle. Ça fait longtemps que les systèmes industriels sont critiqués et la violence envers les animaux dans ces systèmes mise au jour. Là, ce qui change profondément, c'est que il y a des intérêts économiques et financiers puissants dans la transformation de notre alimentation. Et dans l'émergence de substituts à l'alimentation carnée.
Donc ça veut dire que pour vous, Jocelyne Porcher, modifier les conditions dans lesquelles sont élevés les animaux aujourd'hui, ça aurait pour effet de réduire l'influence du véganisme parce qu'on élèverait les bêtes autrement?
Non, c'est-à-dire le véganisme n'élève pas de bêtes. Les véganes sont pour une rupture de nos liens de domestication avec les animaux. Donc si les véganes gagnaient, ils gagneront probablement parce qu'il y a des intérêts financiers énormes, quoi. Les véganes, en fait, pour moi, c'est les serviteurs des grandes multinationales et des fonds d'investissement qui investissent massivement dans les substituts à l'alimentation carnée, notamment dans la viande in vitro, mais pas seulement, quoi, dans l'agriculture cellulaire, le lait sans vache, les œufs sans poule, etc. Il y a des... En fait, ce qui se passe, c'est qu'au 19e siècle, il y a les industriels et scientifiques ont pris en main la relation de travail des paysans à leurs animaux pour en faire les productions animales, c'est-à-dire la production de matière animale à partir des animaux, avec la zootechnie, tout ce que j'ai largement développé dans mes ouvrages. Et puis aujourd'hui, c'est la suite, c'est-à-dire c'est pas une révolution, c'est la suite de ce qui précède. Et ben, ce système de production animale qui est très lourd, c'est une industrie lourde, il est remplacé par une industrie légère, par une food tech 4.0 qui va produire des substituts animaux, à partir de l'agriculture cellulaire. Mais ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est la viande in vitro, parce que ce qui va réellement remplacer par exemple, ce qu'on trouve dans les linéaires actuellement, là, les espèces de tranches de poulet là, issues des systèmes industriels, c'est la viande in vitro. Ça aura à peu près la même tête, ça aura à peu près le même goût. Le poulet industriel, c'est pas de la viande. La viande in vitro, ce sera pas de la viande.
Alors, on va si vous voulez bien, Jocelyne Porcher, pour qu'on puisse vraiment être dans une discussion entre vous deux, je vais faire réagir Renan Larue, parce que alors, j'imagine que vous allez avoir peut-être déjà quelques désaccords avec ce qui vient d'être dit et cette idée finalement que les véganes seraient d'une certaine manière complice de ce qu'est en train de devenir l'agro-industrie.
Alors avant ça, je voudrais préciser quelque chose. Les véganes ne sont pas contre l'élevage industriel, ils sont contre l'élevage tout court. Voilà. L'élevage industriel est une abomination qui est le prolongement, pour moi, assez naturel de cette première abomination qui est la domestication et l'assujettissement d'êtres sensibles. Voilà. Donc c'est pas les véganes. Évidemment, il y a une popularité un peu plus grande pour le véganisme aujourd'hui parce qu'on voit ce qu'est capable de faire l'élevage. Aujourd'hui, on voit jusqu'où ça peut aller. Et donc, les gens ouvrent un peu plus les yeux, ils réagissent. Et donc, ils se posent des questions fondamentales, non pas seulement sur cette dérive, mais sur le principe même de l'exploitation animale. Ça, c'est quelque chose d'absolument central, il me semble.
Et ensuite, sur ce que disait Jocelyne Porcher, sur le fait que se développe aussi toute une industrie autour de ce qu'attendent peut-être justement les véganes et qui serait pas forcément beaucoup plus vertueuse que c'est censé remplacer.
Ça sera beaucoup plus vertueux parce qu'on cessera la domestication et l'assujettissement d'êtres sensibles. Ça sera infiniment plus vertueux. Alors les véganes ne sont pas pour ou contre l'industrie, ils sont pour la justice. Bon, ça c'est une chose. Et puis deuxième chose, l'industrie en général, elle n'aime pas beaucoup les véganes. L'industrie, par exemple, qui produit du soja, on entend souvent que les véganes sont irresponsables, etc., parce que ils promeuvent la culture de soja intensive, etc. En fait, l'industrie du soja, elle déteste les véganes parce que l'essentiel des débouchés pour l'industrie du soja, c'est les éleveurs qui donnent du soja à leurs animaux. Si tout le monde mangeait, si tout le monde devenait végane, on produirait beaucoup moins de soja parce que les véganes sont beaucoup moins consommateurs de soja que les animaux d'élevage, par exemple.
Jocelyne Porcher, est-ce que vous seriez au moins d'accord sur cette idée que, du point de vue de l'impact environnemental, un monde sans élevage serait quand même un monde peut-être plus vivable, plus respirable qu'un monde avec élevage?
Alors non. Un monde sans élevage, c'est un monde sans animaux domestiques, en fait, à plus long terme. Donc c'est un peu l'enfer, quoi. Par contre, moi je crois que...
Alors attendez, Jocelyne Porcher, pourquoi est-ce que vous faites ce lien direct? C'est-à-dire pourquoi un monde sans élevage, c'est un monde sans animaux domestiques? Il faut peut-être déjà préciser ce que vous entendez par animaux domestiques. C'est pas forcément les chiens et les chats, c'est-à-dire les animaux domestiques, c'est les animaux qu'on a domestiqués aussi dans les élevages.
C'est-à-dire, déjà, je vais faire deux mises au point sémantiques. Premièrement, l'élevage et les productions animales, c'est pas pareil. L'élevage, c'est la relation historique de travail avec les animaux. Voilà, 10 000 ans de domestication, 10 000 ans d'élevage. Voilà, ça c'est l'élevage avec des rationalités multiples, dont ce que j'ai mis au jour, la rationalité relationnelle qui est la plus importante. Donc, ça n'a rien à voir avec les systèmes industriels, là, qui sont la version industrielle de cette relation. Et le côté animaux domestiques, c'est parce que souvent on dit animaux domestiques, animaux de compagnie, animaux familiers, voilà, les gens s'y retrouvent pas. Les animaux domestiques, c'est les animaux qui sont avec nous, qui vivent avec nous depuis 10 000 ans, c'est-à-dire les chevaux, les chiens, les chats depuis moins longtemps, mais les vaches, les cochons couvés, etc. Il y a les animaux de ferme, alors dont leurs rapports de travail avec nous sont des rapports de production de biens alimentaires. Et puis, il y a les autres animaux, les chiens, les chevaux, etc., qui, avec qui on a des rapports de travail aussi, qui sont des rapports de travail de service. Ils ont un travail de service avec nous. Donc, en fait, cet ensemble-là, c'est les animaux domestiques et leurs destins sont liés. C'est-à-dire que si on mange plus de vaches, on enlève les vaches, on enlève les cochons, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire de notre relation avec les chiens qui sont des carnivores, qui sont aussi, et comme les vaches, des animaux appropriés. C'est aussi des êtres sensibles, blablabla. Donc, ils sont appropriés, on les a domestiqués. Voilà, notre relation avec eux est tout aussi critiquable que la relation avec les vaches, quoi. Donc, il n'y a pas de raison qu'on garde les chiens et qu'on enlève les vaches. Donc, c'est l'ensemble de nos relations avec les animaux domestiques qui est en jeu, quoi. Voilà.
Alors, Renan Larue, c'est vrai qu'il y a quand même une logique de se dire, si effectivement on arrête, en tout cas de manger de la viande, il n'y aura plus d'élevage. Mm-hmm. Donc, il n'y aura plus d'animaux d'élevage. Ouais. Donc, un certain nombre d'espèces vont être vouées à disparaître. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'elles soient relâchées dans la nature, qu'elles retournent à un état sauvage qu'elles n'ont jamais connu, en fait.
Bon, ces animaux d'élevage qu'on assujettit, ce sont des animaux qui ont été créés par l'homme. En tout cas, modifiés, sélectionnés, etc. Donc, ces animaux-là, il ne faut pas imaginer que ce sont des races d'animaux qui va disparaître, etc. Il ne faut pas pleurer sur la disparition de ces espèces-là. Ces espèces-là ne sont pas naturelles, elles ont été transformées. Donc on voit les cochons aujourd'hui qui sont modifiés génétiquement, qui ont le corps tout droit pour faire des côtelettes plus facilement. Les vaches qui sont aujourd'hui tellement modifiées, sélectionnées, qu'une bonne partie d'entre elles ne peuvent même pas mettre bas naturellement. Donc ces animaux-là, ce sont des créatures de Frankenstein, en quelque sorte. Et si ces animaux-là venaient à disparaître, tant mieux pour elles, parce que Madame Porcher parlait de l'enfer, ce serait l'enfer si la domestication finirait, mais ce serait l'enfer pour qui ? Ce serait pas l'enfer. Il y a un enfer aujourd'hui, il est pour les animaux qui sont domestiqués par l'espèce humaine.
Mais si on suit votre logique, Renan Larue, et si on, disons, on acte la disparition de tous les animaux dont l'évolution a été impactée par l'homme, on risque d'avoir énormément de disparitions d'espèces, parce qu'il n'y a pas seulement les animaux qui ont été impactés par l'élevage, mais aussi par l'activité humaine. Donc tout ça ouvre quand même des espèces d'abîmes de
réflexion. Il y a relativement peu d'espèces qu'on domestique aujourd'hui. Les consommateurs de viande disent oh, les végétariens ne mangent pas grand-chose. Mais un mangeur de viande, il ne mange pas grand-chose non plus. La variété est assez limitée. Du cochon, des poules, des dindes, etc. C'est assez limité. Donc ce nombre d'espèces-là est quand même relativement réduit aujourd'hui, surtout que pour le lait, c'est les Primolstein. Donc ça représente... C'est une race qui a été modifiée, qui est vraiment... Il n'y a pas une biodiversité gigantesque avec... les animaux qu'on trouve dans nos élevages aujourd'hui.
Donc du point de vue de l'atteinte à la biodiversité, s'agissant des animaux d'élevage tels qu'ils ont été modifiés et fabriqués par l'homme, vous nous dites, Renan Larue, que ça ne serait pas si grave. Est-ce que ça le serait, à vos yeux, Jocelyne Porcher ? Simplement du point de vue de la biodiversité.
Non, je pense que l'impact des systèmes industriels depuis le 19e siècle sur la biodiversité animale domestique a été important. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est pas comment libérer les animaux et arrêter l'élevage, c'est revenir à des races animales beaucoup plus conformes à ce qu'est l'élevage dans sa nature profonde, quoi. C'est-à-dire revenir sur la spécialisation des animaux, sur les courbes de performance, etc. C'est-à-dire refaire de l'élevage avec des animaux adaptés à leur territoire, adaptés à leurs éleveurs, et qui aient une vie digne de ce nom.
Alors je reviens tout de suite vers vous, Jocelyne Porcher, mais est-ce que du coup, Renan Larue, cette façon-là d'aborder l'élevage pourrait vous convenir davantage, c'est-à-dire des animaux adaptés à leur milieu qui ne sont pas des animaux qui auraient été modifiés ?
Ce serait un moindre mal, je dirais, mais ça ne change pas la question centrale qui est une question de justice. On n'assujettit pas un être sensible. Il y a quelques principes de base dans le véganisme. Tu ne tueras pas, tu ne massacreras pas, tu n'exploiteras pas. Et à partir de ce moment-là, on doit cesser avec la domestication. Puis je voudrais aussi dire quelque chose sur l'élevage selon Madame Porcher. Ça me semble ressembler fort à une espèce de fiction qui n'a jamais eu lieu, qui n'existe pas et qui n'existera probablement jamais.
Vous voulez dire qu'on se réfère à un âge d'or de ce qu'aurait pu être la relation entre l'homme et l'animal d'élevage qui n'a jamais existé?
Les violences sont épouvantables aujourd'hui dans les abattoirs industriels, dans les élevages industriels. Ça, c'est vrai. Madame Porcher est d'accord. Elle le sait très bien. Elle le critique très souvent, là on est d'accord là-dessus. Mais il me semble que moi je suis historien et quand je regarde la manière dont sont traités les animaux au XVIIIe siècle, quand on regarde ce qui se passe au Moyen-Âge, quand on regarde ce qui se passe dans l'Antiquité, ça faisait moins longtemps, enfin il n'y avait pas encore les dérives de l'industrie, mais des auteurs comme Plutarque, comme Bovide et plein d'autres crient en quelque sorte lorsqu'ils voient ce qu'on fait aux animaux. Il y a le foie gras, le gavage, des mutilations diverses et des choses absolument épouvantables qui sont décrites par Plutarque. L'élevage, il traîne, il charrie avec lui des sommes de violence considérables.
La cruauté de l'élevage industriel est sans doute beaucoup plus importante qu'elle ne l'était dans l'élevage traditionnel, Jocelyne Porcher, mais cette cruauté, elle existait quand même justement dans l'élevage traditionnel, non ?
Je crois déjà qu'il faut faire attention aux sources, parce que malheureusement, les paysans n'ont pas écrit de livre. Donc, Plutarque a écrit, c'est bien, mais voilà, les paysans eux-mêmes, dans leurs relations aux animaux, mais qui s'y est intéressé, quoi? Moi, je me fonde sur le fait que, comme le dit Gould, finalement, depuis le néolithique, les humains n'ont pas tellement changé. Donc, moi, je rencontre des centaines d'éleveurs depuis que je fais ce travail. Ces centaines d'éleveurs, ils ont une relation pacifique, respectueuse, voire amoureuse avec leurs animaux. Et je vois pas pourquoi ils seraient comme ça et qu'ils l'auraient pas été avant. Alors, ça veut pas dire que c'est idyllique, ça veut pas dire qu'il y a eu un âge d'or, parce qu'on vit dans une société violente. Où les animaux sont, comme ils sont pris dans les rapports sociaux, ils sont domestiques, ils sont dans la maison, ils sont avec nous, ils travaillent avec nous. Ben voilà, quand il y a des guerres, ils la font avec nous. Quand il y a des, ils sont pris dans les rapports sociaux. Donc la violence des rapports humains, elle est terrible. Ça, et les animaux sont pris là-dedans. Maintenant, l'élevage, la relation des éleveurs avec leurs animaux, là au contraire, c'est une entreprise de pacification. Un éleveur avec ses animaux, ce qu'il cherche, c'est la conciliation, l'intelligence et la paix.
Sauf voilà, que, Jocelyne Porcher, la connaissance du monde animal, de la sensibilité notamment d'un certain nombre d'animaux a quand même énormément progressé ces dernières années. Est-ce que justement ces connaissances-là ne conduisent pas à réenvisager la nature de cette relation entre l'homme et l'animal qu'il élève et ce qu'il croyait être peut-être lui une forme d'empathie et de bienveillance à l'égard de l'animal, est-ce que ça n'est pas remis en cause justement par ces nouvelles connaissances ? Ou bien est-ce qu'il y a une intuition chez les éleveurs de cette intelligence de l'animal ?
Mais on peut pas travailler avec les animaux. C'est justement l'idée qu'on mange les animaux, qu'on les élève parce qu'on les prend pour des imbéciles. C'est une idée stupide. On vit, on travaille avec les animaux parce qu'on sait qu'ils sont intelligents et qu'on travaille avec eux. C'est justement le travail avec eux, il est possible parce qu'on reconnaît leur intelligence. Il faut je pense qu'il faut prendre en compte le fait que l'idée que les animaux sont des imbéciles, ça vient de la science, ça vient des philosophes, ça vient le sens profane qui a dit que les animaux étaient idiots. Au contraire, le sens profane résiste à cette idée que les animaux ne pensent pas, n'ont pas de représentation, ne parlent pas, etc., ne s'expriment pas, voilà. Le sens profane résiste, on peut le voir aujourd'hui comme hier. Et les éleveurs, eh ben, ils sont dans leur relation avec les animaux, ils travaillent avec les vaches, avec les cochons. Et forcément, pour travailler avec ces animaux, il faut qu'ils fassent confiance à leur intelligence. Et en plus, ils sont éduqués, parce que je veux dire, une génisse, elle est éduquée par les vaches dans le troupeau.
Renan Larue, voilà, est-ce que c'est parce que vous considérez que les animaux sont des imbéciles que vous promeuvez le véganisme? Enfin, je vous pose la question, ouais. Je sais très bien que vous n'allez pas me répondre par l'affirmative.
Les animaux sont pas des imbéciles. Une chose avec laquelle je suis d'accord avec Madame Porcher, les paysans connaissent très bien leurs animaux, ça je suis entièrement d'accord. Ils aiment leurs animaux, je suis entièrement d'accord. Dans l'élevage industriel, c'est moins net, c'est beaucoup moins net surtout pour certains élevages comme l'élevage porcin ou l'élevage de poules. Dans l'élevage bovin, c'est beaucoup plus clair, l'élevage laitier, les vaches ont des noms, elles vivent pas très longtemps parce qu'on les envoie à l'abattoir assez rapidement, mais 2, 3, 4 ans avec les paysans, parfois plus, mais c'est assez rare. Mais dans l'élevage porcin, les animaux sont des numéros, il n'y a pas d'amour pour les cochons, ce sont des numéros qui restent quelques mois, quelques semaines, et qui partent ensuite à l'abattoir.
Il y a d'ailleurs un film qui est en ce moment à l'affiche qui s'appelle Petit Paysan, où on voit bien ce que peuvent être justement les deux modes d'élevage, alors en l'occurrence sont des vaches, où il y a un petit paysan qui connaît justement ces vaches une par une, qui leur donne des prénoms, et puis un autre qui est féru de technologie, qui en a je ne sais plus combien de dizaines, et qui gère finalement son élevage à partir de son smartphone, mais qui finalement ne va quasiment jamais au contact de ces bêtes.
Ouais, c'est un très bon film. Autre chose, c'est que Madame Porcher parle de relations pacifiées avec les animaux au sein de l'élevage qu'elle prône, mais ils ont cette relation de travail qui finit par un égorgement d'un des deux partenaires, c'est quand même un petit peu difficile à justifier, j'ai l'impression.
Juste, Jocelyne Porcher, vous avez signé il y a quelque temps de cela, c'était il y a un an, dans le magazine Causeur, un article sur ce sujet, et vous disiez notamment ceci. Alors c'est une phrase qui, je dois dire, mérite explication parce qu'elle provoque un petit peu des interrogations, en tout cas pour le moins. Vous écrivez « Pour le bien des animaux, il vaudrait mieux refaire de l'élevage plutôt que supprimer l'élevage ». Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que les relations de domestication, contrairement à ce que dit Renan Larue, c'est pas un assujettissement. On n'aurait pas domestiqué les animaux s'ils n'étaient pas d'accord. Il faut noter que la plupart des animaux domestiqués, sauf justement les animaux de compagnie, sont des proies dans la nature. Et les moutons, enfin, il est probable, enfin, on peut l'imaginer, on finalement sont entrés dans un rapport de domestication avec les humains parce que c'était leur intérêt. Moi, j'étais bergère personnellement. Dans la bergerie, tout est calme. Il y a pas le loup, il y a pas le stress, il y a pas une emprise unilatérale sur les animaux, la domestication.
C'est peut-être que les animaux n'ont pas conscience, Jocelyne Porcher, peut-être que les animaux n'ont pas conscience de la faim qui les attend. Et que s'ils en avaient conscience, peut-être qu'ils réagiraient autrement et que cet accord dont vous parlez, ils auraient plutôt envie de le rompre.
Mais non, parce que dans la nature, les brebis, regardez là, avec les histoires de loups, les brebis, elles sont dans la nature, il y a le loup. Le rapport à la mort des animaux, il est compliqué parce que on n'est pas dans la conceptualisation, probablement, l'idée de la mort, etc., que nous avons nous. Mais en tout cas, le temps de la vie de l'animal avec nous, c'est un espace protéger, c'est-à-dire, d'ailleurs, c'est le premier rôle d'un éleveur, de protéger ses animaux. C'est pour ça qu'il y a un gros problème avec ces histoires de loups.
Renan Larue, question d'une protection, finalement, qui est accordée aussi par l'humain aux animaux, en tout cas à certaines espèces animales.
Ouais, mais
c'est vrai qu'on le constate, justement.
Ils sont protégés en quelque sorte. On les protège pas pour les protéger, on les protège pour les utiliser, pour en tirer. Pour en tirer un profit. Il y avait un auteur de l'Antiquité qui s'appelle...
Oui, mais si en retour, ces animaux-là tirent aussi un profit, c'est-à-dire le profit, c'est quoi ? C'est leur pérennité, c'est leur survie.
Mais les animaux, ils n'ont rien demandé. Enfin, y a leurs ancêtres, il y a 12 ou 13 000 ans, ils étaient effectivement... Le loup est devenu chien parce qu'il avait intérêt à vivre avec les êtres humains. Ça, c'est vrai, mais les vaches d'aujourd'hui qui naissent après une césarienne, etc., elles n'ont pas demandé, il n'y a pas d'intérêt pour elles. Elles sont là, elles sont utilisées, elles sont reproduites artificiellement. Il n'y a pas de pacte ou de contrat tacite, ça n'existe pas. Les animaux sont nos esclaves, ils naissent pour qu'on puisse en tirer profit et on les égorge à partir du moment où ils sont plus rentables ou ils sont moins rentables, tout simplement.
Alors je rappelle la question que nous posons ce soir, les véganes menacent-ils le monde animal ? Et nous le faisons en compagnie de Renan Larue, qui est professeur à l'Université de Californie, qui publie un que sais-je sur le véganisme, et Jocelyne Porcher, qui est directrice de recherche à l'INRA, sociologue, et qui a publié « Vivre avec les animaux, une utopie pour le 21e siècle ». Jocelyne Porcher, vous évoquiez tout à l'heure pas seulement les animaux d'élevage, mais les animaux aussi domestiqués qui rendent des services, mais on peut peut-être même aller au-delà, c'est-à-dire les animaux qui sont des animaux de compagnie dont on n'attend pas forcément des services. Quand on a un chat chez soi, par exemple, ça n'est pas parce qu'on en attend... Si, un service peut-être c'est du réconfort quand on rentre le soir chez soi. Est-ce que vous diriez, Jocelyne Porcher, et je poserai évidemment la même question à Renan Larue, que dans un monde où le projet politique, parce que c'est aussi un projet politique du véganisme, aurait triomphé, l'impact se ferait aussi sentir sur les animaux de compagnie, Jocelyne Porcher.
Eh bien oui, puisque comme je disais tout à l'heure, les animaux de compagnie, ils n'ont pas de raison de durer dans la relation plus que les vaches. Ils sont appropriés, ils sont pucés, ils sont, on les sort en laisse, il n'y a pas de raison. Si le projet vegan allait au bout de ce projet. En fait, il y a une disparition des animaux domestiques, mais ceux qui perdront le plus, c'est nous. Enfin, moi, j'ai été éleveuse, j'aime les animaux profondément, j'aime la compagnie des animaux. Un monde privé de cette compagnie, un monde humain où la compagnie des animaux nous serait ôtée, je l'imagine même pas. Je n'imagine même pas quel monde ça serait, parce que les animaux nous apportent quelque chose. C'est ça que ce projet vegan ne voit pas. C'est à quel point les animaux Et on peut le voir vraiment chez les gens qui vivent dans la compagnie des chiens, les gens qui vivent dans la compagnie des chevaux, des vaches. Les animaux nous apportent mais énormément. Ils donnent une dimension à notre vie, mais qui est sans équivalent. Demain, on vivra avec des robots à la place de vivre avec des chiens. Mais qu'est-ce que nous apporteront les robots par rapport aux chiens, quoi? Les animaux, on a une part animale en nous créée par la domestication. La domestication, c'est les relations domesticatoires, c'est la naissance de l'humain. On est né avec les animaux. Alors c'est une connaissance dans la relation. On est humain avec les animaux. Ce projet de nous priver, qui est un projet de vegan, mais qui est un projet de l'industrie, hein, parce que pour moi, ce qui compte, c'est la volonté de Bill Gates, des multinationales, des fonds d'investissement, de faire une agriculture sans élevage et de nous vendre des robots à la place de nos relations avec les chiens. Mais c'est nous qui allons être privés de quelque chose. Et je me demande qu'est-ce que ça sera un humain sans les animaux. Ça n'a jamais existé.
Renan
Donc,
Larue.
C'est un projet complètement fou.
Renan Larue, est-ce que dans le projet vegan, la disparition des animaux de compagnie est programmée? Ou bien est-ce que il peut y avoir peut-être aussi du débat, parce que j'imagine que le véganisme, ça n'est pas forcément une communauté, disons, totalement et en permanence unanime. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a ce projet-là qui existe?
Effectivement, il y a beaucoup de réflexions, de débats autour de cette question-là, puisque si effectivement on veut en finir avec la domestication, avec l'assujettissement des animaux, la question de la domestication des animaux familiers, chiens, chats, etc., se pose de manière extrêmement, extrêmement claire. Donc, il y a certains philosophes, Gary Francione aux États-Unis et plusieurs autres, qui sont extinctionnistes, c'est-à-dire qu'ils proposent d'en finir avec les chiens, les chats, les animaux de compagnie, parce qu'ils estiment qu'il y a un risque trop grand de maltraitance à l'égard des animaux. C'est-à-dire qu'effectivement, un chien apporte beaucoup de choses, il y a cette communion au sein de la domus, comme dit Jocelyne Porcher. Mais le problème, c'est que énormément de chiens sont maltraités. J'imagine que, je sais pas, 10, 20, 30% des chiens sont bien traités et heureux de partager la vie, la maison avec des humains, mais 70% d'entre eux sont jamais sortis ou pas sortis, sont frappés. Vous demandez aux gens qui travaillent à la SPA combien il y a d'abandons chaque année. C'est, disons, le coût est gigantesque pour les animaux au sein avec la domestication. Et je parle des animaux familiers.
Et quelle est votre position à vous sur cette question?
Moi, je suis un petit peu, je suis un petit peu hésitant sur cette question-là. Je suis très sensible aux arguments de Gary Francione et je suis un petit peu pessimiste, en fait, par rapport au lien qu'il peut y avoir entre les êtres humains et les animaux. J'ai eu des chiens, des chats, je sais très bien ce qu'a d'important, de riche, cette vie en commun. Mais en même temps, je suis pessimiste parce que je vois comment les chats, les chiens sont traités un petit peu partout. Donc ça, c'est l'extinctionnisme. Pose des problèmes pour pas mal d'amoureux des animaux, pas mal de véganes. Et en réponse à cette théorie-là, qui est un petit peu radicale, on va dire, qui est un petit peu dure, une autre théorie s'est développée il y a 5 ans, maintenant 4-5 ans. C'est celle qui est développée par Sue Donaldson et Will Kimlicka, qui sont, lui en tout cas, est un très très grand nom de la philosophie politique en Amérique du Nord. Et ils imaginent une zoopolis, une société mixte, donc êtres humains et animaux qui vivraient de concert. Donc ça ressemble un tout petit peu à ce que propose Madame Porcher, sauf que cette collaboration-là ne va pas se finir à l'abattoir pour les animaux. Donc les animaux familiers pourraient jouir de certains droits, de droits positifs, seraient considérés comme des citoyens et auraient des droits. Voilà, ça c'est une théorie qui est très à la mode et qui se développe en ce moment beaucoup.
Est-ce que c'est un compromis qui pourrait vous convenir, Jocelyne Porcher?
C'est-à-dire que les travaux de Donaldson et Kimlicka sont très proches, en fait, de mon propre travail, à cela après que, en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est de résoudre l'aporie, qui consiste à libérer les animaux tout en les gardant avec nous. Alors, comment faire pour faire les deux à la fois? En fait, ils essayent de réinventer l'élevage, sauf qu'ils ne connaissent pas les animaux, qu'ils ne connaissent pas l'élevage, qu'ils ne connaissent pas ce qui fait la racine de ce lien, c'est-à-dire le travail, et le travail est la place de la mort dans le travail. Parce qu'on vit pas avec des animaux singuliers comme ça, on vivra pas avec un mouton, dans le parc de Montsouris, là 3 moutons, on les tuera pas, voilà, ils seront là. Mais non, parce que les animaux ils se reproduisent, on n'a pas assez de ressources. Par exemple, s'il y a Par exemple, des béliers, un bélier, et mettons 5 brebis dans le parc de Montsouris, ils feront des petits. Qu'est-ce qu'on fera des petits au bout d'un moment? Enfin, on vit avec des populations animales, avec des individus, avec des troupeaux, avec des populations. Et donc, c'est pour ça qu'on tue les animaux. C'est parce qu'on peut, et ce que disent les éleveurs dans la majorité de mes enquêtes, c'est ce qu'ils disent. Parce que tuer les animaux, c'est pas la tasse de thé des éleveurs. On ne peut pas tous les garder. C'est vrai. Voilà. Il faut faire une adéquation entre les ressources qu'on a pour vivre avec les animaux et le nombre d'animaux et puis la vie des animaux. C'est-à-dire que si on garde 3 brebis sans bélier, eh ben, est-ce qu'on prive les brebis de vie sexuelle? Ou est-ce qu'on a le droit de... Il y a tout un, comment, cette sexualité des animaux, elle apparaît pas du tout comme dans Zoopolis, et c'est dommage parce que les éleveurs, eux, ils ont des grands discours là-dessus, et les éleveurs de cochons, parce que Renan Larue parlait des cochons, mais il n'y a pas seulement l'élevage de cochons, c'est pas seulement l'industrie. Moi, je connais des éleveurs de cochons qui sont fans de leurs cochons, qui peuvent parler de leurs cochons, leur truie, de leur verra pendant des heures, et qui essayent de leur donner la vie la meilleure possible, y compris une vie sexuelle qui implique après une adéquation des ressources, et c'est un cycle, une harmonie, et on peut pas faire comme le projet de Zoopolis, c'est d'enlever la mort de tout ça, moi je pense que ce n'est pas possible. Maintenant, ça veut pas dire qu'il faut pas changer des tas de choses. Il faut changer des tas de choses en élevage, il faut changer les conditions de vie au travail des animaux, il faut changer les conditions de la mort, l'âge à l'abattage, les conditions d'abattage, etc. Je dis pas du tout que c'est bien comme ça et qu'il faut pas rien changer.
Voilà, et vous avez évoqué l'un et l'autre, Zoopolis de Donaldson et Kim Nika. Je précise juste que c'est un ouvrage qui a été récemment traduit en français. Je crois que c'est chez Alma Éditeur. Vous vouliez réagir dans la rue?
Oui, alors je suis pas un grand spécialiste ou un grand défenseur des théories de Kim Nika et Donaldson. Je précise juste sur la question de la sexualité. Ils ont réfléchi à cette question-là et ils proposent effectivement que les animaux, s'ils le veulent, aient des rapports sexuels, mais avec évidemment une limitation, puisque si, disons, ils se reproduisent sans limitation, eh bien, il va falloir les nourrir et il y a des problèmes. Donc ça, je suis entièrement d'accord avec Madame Porcher.
Mais cette régulation, ça veut dire quoi? C'est une régulation qui est faite par les humains, du coup. Donc c'est quoi, sous forme de stérilisation,
voilà,
de chasse
Non, pas de chasse, de stérilisation, etc.
Mais alors, d'un point de vue éthique, est-ce que ça pose pas autant de problèmes finalement que tuer un animal pour le manger? C'est-à-dire tuer un animal parce qu'il prolifère, est-ce que ça n'est pas finalement au moins aussi problématique que de le tuer pour le manger? On peut se dire au moins, si je tue pour manger, ça me rapporte quelque chose. Si je le tue simplement parce qu'il prolifère...
C'est pour ça que je suis hésitant à l'égard de la théorie de Donaldson et Kim Nika. C'est-à-dire que ça pose une multitude de problèmes pratiques qui sont difficiles à résoudre. Bon, il faut bien aussi avoir à l'idée que ces questions-là sont des questions qui sont périphériques ou secondaires par rapport au massacre des animaux domestiqués pour leur viande, leur lait et leurs œufs. C'est une question théorique très intéressante, une question pratique très intéressante, je suis bien d'accord, mais l'urgence absolue, c'est sauver les animaux des abattoirs et puis encore plus sauver les animaux qui sont dans les océans et dans les mers et qu'on massacre.
C'est quand même important aussi de réfléchir aux conséquences ensuite de tels projets, si ces projets deviennent, si ce n'est en tout cas exclusif, en tout cas majoritaire, c'est-à-dire si la norme devient finalement demain le véganisme et non pas le carnisme, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire d'ailleurs.
Non, je suis d'accord, il faut se poser la question, il faut commencer à y réfléchir. C'était juste pour mettre en perspective un petit peu les urgences.
Alors, dans ces questions qu'on se pose et dans ces hypothèses qu'on émet, je voudrais ajouter peut-être un exemple, alors qui va peut-être être encore plus loin dans ce que pourrait être un monde où, alors, à la fois l'exploitation de l'animal par l'homme aurait disparu, mais où peut-être aussi les rapports entre animaux seraient davantage pacifiés. Écoutez cet extrait d'un documentaire qui a été diffusé sur France Culture en avril dernier. Ça s'appelle Retour dans les bois. C'est un documentaire de Franck Thoraval qui a été réalisé par Gilles Mardi-Rossian et qui imagine un écrivain qui est de retour de l'île d'Utopia. Alors évidemment, c'est beaucoup inspiré de l'Utopia de Thomas More, et où les animaux et les hommes cohabitent sans violence, et les animaux entre eux également cohabitent sans violence, puisque les prédateurs ont disparu. C'est ce récit imaginaire que je vous fais entendre.
La prédation existe toujours sur l'île d'Utopia, c'est-à-dire qu'il y a des animaux prédateurs qui mangent des herbivores. C'est une question qui est en débat dans la société, parce que la prédation comme morale, comme philosophie récupérée par les êtres humains pour valoriser des conduites violente et très critiquée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une fascination pour les prédateurs. Et une partie d'utopiens voudrait faire un sort à la prédation, c'est-à-dire empêcher les prédateurs de tuer leur proie. La solution qui a été proposée, c'est de contrôler le nombre de prédateurs. C'est-à-dire que l'île d'Utopia est très forte en médecine des plantes, en herboristerie. Et donc l'idée, c'était de donner une contraception dans de la nourriture qu'on laisserait dans la forêt pour que les prédateurs ne puissent pas se reproduire. Donc faire baisser le nombre de prédateurs sur l'île. Voilà. Et ainsi même laisser en vie le maximum d'herbivores.
J'ai reparlé un petit peu trop vite et je me suis trompé en plus en lançant cet extrait. La prédation n'a pas disparu, mais il y a en tout cas une réflexion pour que la prédation disparaisse. Le récit et la personne qu'on entend, c'est l'écrivain Martin Page, donc qui s'est prêté au jeu de cette imagination, de ce monde imaginaire. Renan Larue, est-ce que ça pourrait aller justement encore plus loin le projet du véganisme et de se dire finalement si on considère que l'homme que l'humain n'a pas à tuer les animaux et à les manger, que c'est aussi une règle qui finalement pourrait s'appliquer à l'ensemble du monde animal.
Alors c'est là une fois encore une question théorique qui intéresse certains philosophes, je pense à Oscar Horta par exemple, et quelques autres, donc ils réfléchissent à la prédation. Alors certains auteurs trouvent que la prédation pourrait être un bon modèle éthique. Dominique Lestel développe cette thèse-là depuis quelques années. Alors évidemment, ces auteurs auxquels je pense ont une théorie tout inverse. La prédation est une chose terrible, terrifiante d'après eux. Et là, on est vraiment dans la spéculation de la théorie. Ils essaient de trouver des solutions, c'est de réfléchir au problème moral que pose la prédation. Ils essaient d'imaginer si techniquement l'espèce humaine pouvait intervenir dans la nature et empêcher la prédation, eh bien, l'être humain aurait le devoir de le faire. Donc, en stérilisant, par exemple, les prédateurs, ou en limitant la casse. Ça, c'est un problème vraiment philosophique, ultra spéculatif, qui intéresse certains chercheurs depuis 2-3 ans maintenant.
Jocelyne Porcher, si on accepte de s'appliquer à soi-même, c'est-à-dire à nous humains, des principes moraux, est-ce qu'on peut imaginer aussi qu'il faille en appliquer aux animaux et réfléchir à ce que serait le véganisme? Ça serait réfléchir non pas seulement du point de vue des relations entre l'être humain et les animaux, mais entre l'ensemble du règne animal. Ou est-ce que ça vous paraît aller peut-être beaucoup trop loin?
Ah bah déjà, le véganisme, ça me paraît aller trop loin, mais là, c'est moi, je dirais de quoi je me mêle, quoi. Enfin, il faut les animaux, il y a les animaux domestiques, on vit avec les autres, il faut leur laisser vivre leur vie et leur laisser la place, justement. C'est bien le problème là. Ces animaux qui sont pas domestiques, faut leur laisser la place de vivre leur vie et pas se mêler de leurs affaires. Je pense que là, la prédation, elle existe dans la nature. Évidemment, il y a un tel déni de la mort, un tel désir de transformer la nature pour éradiquer la mort, là, et le transhumanisme et toutes ces mouvances là sont le témoignage qu'en fait on a l'impression que pour beaucoup on vit dans un monde insupportable. Mais le monde est comme il est. Enfin, je veux dire, moi, en tant qu'ancienne éleveuse, c'est ce que j'ai appris en faisant de l'élevage, que la nature existe. La nature, c'est un construit, mais la nature existe. Et c'est ce qui nous résiste, et c'est l'orage quand on va promener les brebis, c'est la maladie, la mort d'un agneau qu'on a soigné, enfin voilà, et donc c'est le contraire de la prédation, l'élevage. Donc nous, dans notre monde humain, au travail avec les animaux, on n'est pas dans la prédation, on est dans l'élevage, on est dans la domestication, on est dans une recherche de pacification et d'émancipation commune. Et puis il y a le monde autour, il y a la nature, il y a ce dans quoi on vit. Alors soit on dit qu'on va tout changer parce qu'on est des humains, et là, en faisant preuve d'un spécisme horrible, là on va se mêler de la vie des animaux sauvages, ou alors on accepte qu'on est des êtres vulnérables, fragiles, que notre vie a une fin et qu'on doit vivre avec cette finitude, l'accepter et être heureux le temps de notre vie, voilà, plutôt que d'embêter tous les animaux là.
Eh bien, ce sera, si vous le voulez bien, l'un et l'autre. Enfin, si vous le voulez bien de manière, vous n'avez pas le choix, car c'est presque la fin de l'émission. Le mot de la fin. Merci beaucoup, Renan Larue. Donc, je renvoie au véganisme que vous publiez aujourd'hui dans la collection Que sais-je, ouvrage que vous avez coécrit avec Valérie Giroux. Merci beaucoup, Jocelyne Porcher. ainsi qu'à nos camarades de France Bleu Hérault. Demain, on sera encore sur des questions éthiques. On passera du monde animal au monde mécanique. Drone, robot tueur, la guerre sans l'affaire. Ce sera notre sujet.